Alors, nous allons demander à Dieu sa bénédiction sur ces instants. Une fois de plus, notre Père, Père de grâce, Père d'amour, nous te louons et nous te bénissons, parce que nous éprouvons que tu es un grand Dieu. Et nous sommes heureux de te connaître. Et nous voudrions te dire qu'à ton amour, notre amour maintenant répond. Et nous sommes des enfants qui se trouvent en ce moment dans la joie, parce que nous ne sommes pas des orphelins, parce que dans ce monde étrange, nous connaissons notre véritable domicile, qui n'est pas d'ici, mais qui est d'en haut. Notre cité à nous, elle est dans les cieux, et c'est de là que nous attendons Jésus, comme sauveur de notre corps, qui transformera notre corps de misère en la conformité de son corps de gloire, et cela en un seul instant. Et cet instant, c'est peut-être aujourd'hui que nous allons le connaître. C'est pourquoi nous voulons être dans la joie et sans souci pour demain. Donne-nous de vivre aujourd'hui une journée de plénitude dans la bénédiction du Christ. Amen. Dans ce vendredi 14 août, nous avons à étudier le chapitre 15 de cet épître aux Romains qui nous a occupés chaque matin depuis 15 jours. Je pense que, en lisant ces versets, vous avez été d'accord que la base doctrinale du chapitre 12 se trouvait au chapitre 6. Que la base doctrinale du chapitre 13 se trouvait au chapitre 7. Et que la base doctrinale de ce chapitre 14 et 15 se trouvait au chapitre 8 des Romains. Et dans notre chapitre 15, comme nous le disions déjà tout à l'heure, vous avez constaté que les 13 premiers versets complète les enseignements du chapitre 14 au sujet de la tolérance des chrétiens. Puis du verset 14 au verset 21, Paul justifie son épître en appelant aux bénédictions dont son apostolat a été comblé. Et enfin, dans les versets 22 à 23, Paul réitère aux Romains son désir et sa promesse de les visiter. Il en avait exprimé le désir tout au début de sa lettre au chapitre 1er. Alors, prenons un peu le détail de ces 13 premiers versets, qui sont la suite du chapitre précédent qui développait les motifs de supporter les faibles. Dans toute communauté chrétienne, il y a des forts et il y a des faibles. Des faibles qui, par scrupule religieux, distinguent entre aliments et aliments, s'abstiennent de viande et de vin, et distingue aussi entre jour et jour. Et vous avez des forts qui ne font pas ces distinctions. Et nous avons souligné hier, et je tiens encore à le faire aujourd'hui, que le faible dans la foi, d'après ce contexte, n'est pas un chrétien de foi branlante, mais un fidèle qui, tout en adhérant sincèrement au christianisme, ne possède pas une foi suffisamment éclairée pour juger de tout à sa lumière. C'est là souvent qu'il y a des divergences entre chrétiens. Au niveau justement de cette connaissance, ce ne sont pas des divergences fondamentales, mais tous ne sont pas parvenus au même degré de connaissance, à cette unité de la foi et de la connaissance dont parle Paul aux Éphésiens, à cet état d'homme fait, à cette pleine mesure de la stature de Christ. Il y a des enfants, il y a des adolescents, et il y a des hommes faits dans l'Église. Et alors, les hommes faits doivent se souvenir qu'eux aussi ont connu une enfance spirituelle. Et ils doivent avoir des égards pour ceux qui n'ont pas encore atteint leur niveau. Et c'est pourquoi nous devons avoir du support et nous souvenir que nous aussi, nous avons été des petits-enfants, des adolescents, que nous n'avons pas toujours compris les choses comme aujourd'hui nous les saisissons. Alors, cela nous donne beaucoup de grâce pour les faibles, qui ne sont pas complètement libérés de certaines habitudes ou de certaines idées qu'ils avaient avant leur conversion. Et c'est ainsi qu'ils se croient tenus à des pratiques qu'une foi lumineuse leur montrerait indifférentes. Le faible ne doit donc pas juger le fort, et le fort ne doit pas mépriser le faible, mais nous devons nous aimer les uns les autres. Dans les trois premiers versets, nous voyons que la charité seule devrait suffire au fort pour compatir aux infirmités des faibles, pour ne pas se complaire en leur force, pour avoir toujours en vue l'édification des autres, à l'exemple de Jésus dans son renoncement et ses souffrances. Alors, je lis le texte. Nous qui sommes forts, c'est-à-dire qui avons été affranchis de certaines coutumes et qui avons compris qu'en Jésus tout cela au fond disparaît, que ce n'était que des ombres, des béquilles, mais nous n'en avons plus besoin puisque nous avons obtenu la guérison. Alors, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et s'ils ont encore besoin de ces béquilles, ne leur enlevons pas nous-mêmes ces béquilles. Prions pour que la guérison complète se manifeste et nous les verrons peu à peu délaisser ce sur quoi ils s'appuyaient encore. Ce qui compte pour nous, c'est de ne pas nous complaire en nous-mêmes. C'est pas de nous dire toujours, c'est moi qui ai raison, les autres ont tort. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Voyez-vous, je pensais ce matin en relisant ce texte à un camp que nous faisions avec le pasteur Champandal de Genève dont je vous ai parlé. C'était à Florence, en Italie, le camp de Poggio Albertini. Et le pasteur Champandal était donc un pasteur de l'église officielle, réformée, calviniste, de Suisse, de Genève. Et nous regardions les campeuses d'Italie qui, dans la réunion de prière, étaient toutes voilées. Elles avaient une petite mantille et elle se mettait cette mantille sur la tête pendant les réunions de prière. Et je l'entends encore comme si c'était ce matin, il me pousse du coude et puis me dit, vous trouvez pas mon frère quand même, ça fait du bien de voir cela et de voir qu'ici encore on respecte un enseignement de l'apôtre Paul. Nous ne serions pas senti poussés à leur dire, mais qu'est-ce que c'est que ces voiles? C'est dans l'Écriture. Et ses frères et ses sœurs trouvaient bon de se couvrir la tête, d'avoir ce signe sur la tête de leur dépendance. Et ça nous a édifiés simplement. Nous n'avions pas à discuter de ces coutumes-là. Nous savions qu'il y avait là un enseignement biblique et que ceux qui voulaient s'y tenir s'en trouveraient certainement bien. Alors on passe, parce que ce passe-là est qui est essentiel, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Mais si nous, on avait commencé de parler de la libération de la femme, et puis que la femme n'avait pas besoin d'avoir ce signe vis-à-vis des frères, etc., quelle édification est-ce que nous aurions apporté à nos frères d'Italie? Est-ce que c'était pour ça que nous étions venus? Pour semer la pagaille? Mais pas du tout. Alors, visons à l'essentiel. Mais c'est évident que nous voulions leur dire que l'humilité, eh bien, n'est pas nécessairement manifestée par ce voile, et que l'obéissance non plus n'est pas seulement manifestée parce que ces femmes se voilent. Ce qui comptera, c'est l'obéissance du cœur. Et il faut faire attention que le voile ne soit pas simplement un masque et une hypocrisie. Mais ce n'est pas parce que ça peut être un masque et que ça peut être une hypocrisie qu'il nous faut condamner la chose. Il peut y avoir réalité sous la chose. Alors, essayons de désamorcer les discussions qui sont vaines sur ces questions-là et que chacun soit convaincu dans son propre esprit. Et disons-nous toujours, est-ce que, en insistant sur ceci ou sur cela, est-ce que je ne suis pas moi-même une cause de division et de trouble? Est-ce que c'est la foi qui m'habite qui me fait propager ces idées? Ou bien est-ce que je vois ce qui se passe dans le monde et je voudrais que l'Église suive la vie du monde? Eh bien, vous savez que la réponse, elle crie dans votre cœur. Le Christ ne s'est point conclu en lui-même. Dites-vous, mais quelle serait l'attitude de Jésus? Lui, dont il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. On a toujours peur d'être insulté par les autres. Le Seigneur a été constamment insulté, mais il a tout accepté. Lorsqu'on l'outrageait, il ne rendait pas l'outrage. Quand on le menaçait, il ne menaçait pas. Verset 4. Ces sentiments, donc, que nous devons avoir, découlent d'une double source, qui est la même pour tous. D'une part, il y a les Saintes Écritures, où nous puisons ensemble la lumière et la consolation. D'autre part, Dieu lui-même, qui est un Dieu de patience et de consolation. Et ces deux sources nous apprennent à exercer ces sentiments envers nos frères, pour cultiver avec eux la bonne harmonie. Il faut travailler à ce que, dans nos communautés, nous vivions en bonne harmonie, pour glorifier Dieu d'un commun accord avec eux, pour les supporter avec amour. Voilà ce que nous lisons au verset 4 et 5 et 6. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. l'action. Et je pense que dans les rencontres que nous avons eues, que ce soit celle du matin ou que ce soit celle du soir, vous avez pu vous rendre compte que tout ce que nous avons lu dans l'Ancien Testament avait une application et que nous pouvions recevoir une instruction tout à fait personnelle. Les animaux nous ont enseigné, le monde végétal aussi pourrait nous enseigner. Il y a une étude merveilleuse que l'on peut faire sur tous les arbres de la Bible, comme nous avons essayé de tirer une instruction des animaux, on pourrait une autre fois essayer de tirer une instruction de chaque arbre dans l'Écriture. Et c'est afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, que nous possédions l'espérance. Et au verset 5, que le Dieu de la persévérance, alors si notre Père des cieux est un Dieu de persévérance, que devons-nous être, nous ses enfants? Des enfants qui persévèrent. Alors persévérons dans l'essentiel. Et si c'est un Dieu de consolation, qu'est-ce que nous devons être, nous, des fils et des filles de consolation? Est-ce que vous êtes une consolation pour le cœur de quelqu'un? Dites-vous cela. Ou bien est-ce que vous êtes un sujet de trouble? Est-ce que vous voulez devenir des Barnabas, qui veut dire fils de consolation? Est-ce que vous voulez devenir des enfants de consolation dans ce monde où il y a tant de douleurs et de souffrances? Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir des sentiments différents. Les mêmes sentiments, les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Que vous pensiez ceci sur un point secondaire, ça ne va pas diminuer mon amour pour vous. Et si vous ne comprenez pas les choses comme moi, eh bien, Dieu me fait la grâce de comprendre que vous ne me compreniez pas. Est-ce que nous avons cette grâce? Avoir assez de largeur spirituelle pour comprendre qu'on ne nous comprenne pas. Et savoir nous supporter les uns les autres. Car là, il n'est pas question de tolérer du péché, mais il est question d'admettre qu'un autre puisse avoir un sentiment un peu différent, parce qu'il voit les choses d'une autre manière, d'une autre façon. Cependant, je dirais que plus nous sondons les Écritures, plus nous grandissons dans la connaissance de la personne du Seigneur, plus nous devenons intimes avec le Seigneur, plus nous sommes amenés à avoir une même pensée. Et quand nous serons arrivés dans la gloire, eh bien, le Seigneur nous révélera à fond quelle était sa pensée. Eh bien, que déjà sur la terre, nous soyons de ceux qui désirent connaître sa pensée. Non pas qui voient, voilà, ça se passe dans le monde, puis on voudrait introduire absolument cela parmi nous. Non, Seigneur, qu'en dis-tu? Si vous recherchez sa face, et Dieu vous parlera. C'est pas possible autrement. Vous avez un sentiment différent avec un frère ou avec une sœur? Dites-lui. Écoute. Est-ce que tu es d'accord pendant un mois que nous prions pour la chose? Toi, tu demandes que le Seigneur t'éclaire à fond, et puis moi je demande aussi qu'il m'éclaire à fond. Mais non, on ne dit pas comme ça. Je vais prier pour qu'il t'éclaire. C'est ça. Parce que nous, on a déjà tout compris. Non. Ayons cette humilité de se dire, il y a peut-être quelque chose qui m'échappe. Voyez-vous, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée. Qui sont butés. Nous devons nous laisser façonner, nous devons grandir. Et puis, admettre, dire voilà, jusqu'à présent, je faisais ceci, puis maintenant, eh bien, je suis convaincu de cela. Mais je suis convaincu pour moi-même, je n'impose pas aux autres. Ayez une conviction dans votre cœur. Et puis, ayez affaire avec le Seigneur. Recherchez l'approbation du Seigneur, et non l'approbation des hommes. Alors, tous ensemble, d'une même bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Vous devriez faire une fois une étude où vous mettez tous les versets où il a dit « comme Christ ». Vous verrez ce que vous trouverez. Comme Christ. Accueillez-vous comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il nous a demandé avant de nous accueillir de faire ceci, de faire cela? D'être ceci, d'être cela? Il nous a accueillis tels que nous étions. Venez à moi, vous tous. Si j'ai dit hier, partez, 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 eh bien je vous dis ce matin, venez, venez, venez. Mais venez à moi, pas à moi, mais au Seigneur. Venez au Seigneur, et vous découvrirez en lui la source des eaux vives, et vous n'aurez plus envie de vous en aller boire à ces citernes crevassées du monde qui ne retiennent pas l'eau. C'est ce que le Seigneur dit dans le livre de Jérémie au chapitre 2. Mon peuple a fait deux maux. Ils m'ont abandonné, moi, la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Alors on se fatigue à creuser notre citerne alors qu'il y a une source d'eau vive à laquelle on a tourné le dos. Verset 8. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis, c'est-à-dire des Juifs, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites aux pères, les pères c'est donc les patriarches, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nation, réjouissez-vous avec son peuple, donc le peuple d'Israël, et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations et les nations espéreront en lui. Ainsi, l'apôtre voudrait que les forts convertis du paganisme n'oublient pas que c'est à leurs frères faibles, encore imbus de préjugés judaïques, que l'évangile étaient avant tout destinés, eux-mêmes sauvés par la pure miséricorde, doivent glorifier Dieu, comme les Écritures l'avaient annoncé d'avance. Vous savez qu'il y a beaucoup de passages dans l'Ancien Testament qui annonçaient que le salut de Dieu serait annoncé aux nations et que toute chair un jour verrait le salut de Dieu. Alors nous arrivons au dernier vœu de l'apôtre. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance. Par quoi ? Par la puissance du Saint-Esprit. Il n'est jamais parlé de notre puissance. Alors, vous avez au verset 5 que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments. Et ici, que le Dieu de l'espérance, étudiez ces choses, repassez-les dans votre cœur. Mon Dieu, c'est le Dieu de la persévérance, donc je persévérerai. Mon Dieu, c'est le Dieu de la consolation, donc je serai consolé et en consolation. Et puis, mon Dieu, c'est le Dieu de l'espérance. Alors, si je connais le Dieu de l'espérance, qu'est-ce qu'il y aura dans mon cœur? la joie. Et puis, il y aura quoi aussi? La paix dans la foi. C'est tellement beau. La joie dans la foi. La paix dans la foi. Je vous disais ce matin, qu'est-ce qui nous habite? Qu'est-ce qui habite dans notre cœur? La foi? Si la foi habite dans notre cœur, elle met quoi? La joie. Si la foi habite dans notre cœur, elle met la paix. C'est merveilleux. La joie et la paix. C'est ce qui fait la joie et la paix ensemble. Qu'est-ce que ça donne? La sérénité. La sérénité. C'est pas l'exubérance, c'est cette sérénité, cette joie paisible, cette détente. Et le Seigneur veut que nous abondions en espérant. Donc vous avez là la guérison contre les dépressions et un remède merveilleux. Et tout cela par la puissance du psychiatre. Quel est le psychiatre du chrétien? Le Saint-Esprit. Découvrez-le et vous aurez le meilleur des psychiatres. Le Saint-Esprit, notre psychiatre, il écoute même nos soupirs. Et il peut donner une réponse. C'est tonique, cela. Je me souviens que le professeur Karl Barth, qui était très réputé en Europe et dans le monde entier, me disait un jour dans un séminaire de théologie, « Voyez-vous, tous les pasteurs, ils auraient besoin d'aller chez le psychiatre, parce que ce sont des névrosés. » Ils sortent leurs habits le dimanche matin pour prêcher, et puis ensuite ils remettent tout cela dans l'armoire, pendant toute la semaine. Et ce sont des gens qui ne sont pas vraiment heureux. Et c'était quand même bien vrai ce qu'il disait. Et il ajoutait, mais tout le Christ, notre vie, est dans nos cœurs. C'est le soleil dans nos vies. Je me souviens toujours de ces paroles. C'est le soleil dans nos vies. Et c'est vrai. Si Jésus est dans notre vie, c'est le soleil. Ne le laissez pas dehors. Laissez le soleil entrer. C'est un beau petit cantique aussi, ça. Laissez le soleil entrer dans votre vie. Alors, vous aurez la chaleur de l'amour. Passons maintenant à la deuxième section de ce chapitre, où Paul, dans les versets 14 à 21, justifie son épître à l'église de Rome. Pour vous, pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions. Mais à la fin de ce temps, je suis aussi persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, que vous êtes rempli de toute connaissance et capable de vous exhorter les uns les autres. Ne manquez pas à cela. Il y en a parmi vous qui habitent quand même à peu près le même endroit. Eh bien, essayez de vous réunir. Essayez de vous réunir. De vous rencontrer, vous qui avez connu Mahanaïm, et organiser peut-être une danse Mahanaïm. Je lisais ça dans le Cantique des Cantiques ce matin, dans mon entretien personnel avec le Seigneur. Il est question, dans le Cantique des Cantiques, d'une danse Mahanaïm. La danse à deux bandes, littéralement, ça veut dire la danse Mahanaïm. Des deux cohortes qui se sont rejoints, ces cohortes angéliques qui se sont rejoints pour encourager Jacob qui allait rencontrer qui? Ésaü. Et il avait peur. Eh bien, quand vous vous retrouvez, exhortez-vous les uns les autres, vous en êtes capables, vous n'avez pas besoin d'un pasteur particulier, continuez vos lectures contemplatives et puis vos partages. Et ça vous fera du bien de savoir ce qui a touché votre frère, ce qui a touché votre sœur, et vous serez édifié vous-même. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs. Alors, demandez-vous, à quelle place est-ce que Paul use de cette hardiesse, écrit avec une certaine hardiesse? Il faut être assez hardi pour dire, tenez-vous pour mort. Hein, ça c'est hardi. Tenez-vous pour mort alors que vous vous sentez tellement vivant. Eh bien, voilà, vous comprenez le langage de Paul. Je vous ai écrit avec une certaine hardiesse, si c'était vrai, ça. Et tenez-vous pour mort. Oui, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse pour réveiller quoi? Moi, j'ai pas l'intention, j'ai pas l'impression que je vous ai apporté quelque chose de nouveau. J'ai voulu réveiller quoi? Vos souvenirs. Mais on savait ces choses, vous comprenez? Ne dites pas, on n'avait jamais entendu ça, etc. Je ne crois pas. Mais peut-être qu'on était à moitié endormi quand on entendait cela. On avait tellement bien mangé qu'on avait la peau tendue. Et alors, ça résonnait, oui, mais ça n'entrait pas. Alors, il ne faut pas qu'une réunion résonne. Il faut qu'elle pénètre. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, hein? Je voulais réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Mais vous voyez, Paul ne se glorifie pas. Il dit, c'est une grâce que Dieu m'a faite. Et puis, j'ai eu à cœur de réveiller vos souvenirs. Et vis-à-vis des conducteurs qui se trouvaient à Rome, c'est très beau, cela. Hein? Il ne dit pas, moi, Paul, je vous ai enseigné des choses qu'on ne vous a pas enseignées à Rome. Mais il dit, certainement, vous saviez ces choses, et j'ai simplement voulu réveiller vos souvenirs. Alors, un conducteur qui se trouvait à Rome se disait, bien, Paul est quand même bien humble, et puis, il ne pense pas qu'on ne leur a rien dit. Mais c'est une grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ. Et vous savez, il est conscient de cela, qu'il est ministre de Jésus-Christ, et c'est pas peu de choses. Et ministre parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu. Ah, mes amis, s'acquitter du divin service, ça c'est un serviteur de Dieu. Il ne dit pas, après avoir fait un certain nombre de visites ou avoir eu un certain nombre d'entretiens, comme ce pasteur d'une ville de France, qui rentrait le soir au presbytère où je logeais, et qui me disait, en posant son chapeau, j'en ai tué 6. Je dis, quoi? J'ai fait 8 visites. C'est classé pour une année. Il avait tué 6 paroissiens. C'est-à-dire, il avait accompli son devoir. On pourrait pas dire, le pasteur ne nous a pas visités. En tout cas, une fois dans l'année, on avait vu sa tête, en dehors de sa robe de prédicateur. Mais comment est-ce qu'on accomplit notre ministère? J'avais l'impression que j'avais affaire à un boucher, et non pas à un berger. Puisqu'il dit, j'en ai tué 6. Ont-ils les brebis? Gardons-nous d'accomplir notre ministère d'une façon profane. Si vous êtes dans le ministère, quel est votre service? Il est humain? Il est divin. Votre service, il est divin. M'acquittant du divin service de l'évangile. On n'est pas fonctionnaire. On est appelé afin que les païens lui aussi soit une offrande agréable, étant sanctifié par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit aux Colossiens qu'il travaillait à ce que Christ soit formé dans les âmes, pour qu'un jour, tout homme soit présenté à Dieu, rendu parfait en Christ. C'était à cela qu'il travaillait, se donnant entièrement, nuit et jour, prenant des heures sur son sommeil, peu importait, pourvu que les âmes soient édifiées et sanctifiées par le Saint-Esprit. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Ah oui, là, il avait une conscience à l'aise. Pour ceux qui regardaient les choses de Dieu, il pouvait se glorifier en Jésus-Christ qu'il voulait suivre et servir. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas fait par moi pour amener les païens à l'obéissance. C'est l'obéissance, c'est quoi cette obéissance? C'est amener les païens à la foi. La foi est une obéissance. Par la parole et par les actes. Alors, reprenez bien ce verset, parce que ça va vous encourager. L'apôtre Paul dit ceci, « Je n'oserais mentionner aucune chose que j'ai fait pour le Christ. » C'est ça qu'il dit? Non, c'est le contraire. Hein. « Je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait fait par moi. » Alors, laissez-le faire. C'est là le secret. Toutes les choses qui sont sur votre cœur, qui est-ce qui va les accomplir? Le Christ, mais par qui? Par vous, si vous avez livré votre corps. Il va, par vous, accomplir ces choses. Il va continuer son incarnation par vous, allant de lieu en lieu, faisant du bien. Et c'est ainsi que vous serez traité d'évangélisation et que vous amènerez des païens à l'obéissance, par la parole, oui, vous avez un témoignage verbal à rendre, mais aussi par les actes. C'est le Christ qui parlera en vous, c'est le Christ qui agira en vous. Et les paroles du Christ, c'est les paroles qu'il a entendues par le Père. Donc votre message viendra du Père. Les actes du Christ, c'est les actes qu'il a vu faire par son Père, de sorte que vos œuvres seront les œuvres du Père, et non pas les œuvres qui se font dans le monde. Et cela s'accomplira par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. En sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à l'Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile du Christ. Vous pouvez noter le nombre de fois où il est parlé de l'abondance. C'est une vie abondante qui anime Paul. Le Christ est venu non seulement pour que ses brebis aient la vie, mais qu'elle l'ait en abondance. Alors, vous voyez là un homme qui en rend témoignage. Je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Comme on voudrait que plusieurs serviteurs dits de Dieu aujourd'hui aient relu ce texte. Quand on voit, il y a un petit réveil qui se passe à tel endroit, et tout à coup, un prédicateur qui cherche des paroissiens apprend que tel chrétien se réunisse, il veut tout de suite y aller pour les englober et en faire son affaire à lui. C'est vrai ou c'est faux? Lisez ça. C'est mieux l'histoire, hein? Mais Paul dit, je me suis fait un honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait pas été nommé. Alors, on nous dira à cet homme, allez là où il n'y a personne encore. Là, il y a du travail. Ici, par la grâce de Dieu, le Seigneur a opéré, nous nous réunissons, et le Seigneur nous permet de nous édifier, de nous exhorter l'un l'autre. Pourquoi est-ce qu'on aurait tout de suite besoin d'un pasteur qu'il faudra rétribuer, qu'il faudra payer, et bien d'autres choses? Je ne dis pas que cela ne se fera pas, mais c'est le Seigneur qui vous conduira à la plaie, mais vous pouvez grandir d'abord dans le Seigneur, vous avez tout pleinement en lui. Et l'apôtre dit, je me suis fait un honneur de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Vous voyez que dans tout ce que Paul fait, il est dirigé par quoi ? Par l'Écriture, par la parole. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Si Paul n'est pas encore allé à Rome, bien c'est justement parce qu'il ne voulait pas bâtir sur le fondement d'autrui, mais il pense quand même que son ministère étant un ministère particulier, les chrétiens de Rome auraient quand même une bénédiction à faire sa connaissance. Alors, prenons la dernière partie. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous à Rome. Son désir et son espoir de visiter Rome, il le souligne. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, il sent que sa tâche dans ces contrées est terminée. Il y a un moment où nous devons travailler dans un certain lieu avec une vision tout à fait particulière, puis il y a un moment où Dieu nous montre, mais maintenant, c'est terminé. Et je vais te conduire plus loin. On ne s'enracine pas, même si on s'appelle racine. Nous devons être des déracinés. Le Seigneur peut nous prendre ici, puis nous-mêmes mêler là. Nous devons travailler avec tout notre cœur là où il nous a placés, et puis être toujours prêts à nous en aller. Alors, il a le désir d'aller à Rome. J'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne. L'homme propose, mais Dieu dispose. On a le droit de faire certains projets, toujours si Dieu le veut, comme il l'a dit dans Jacques. Paul pensait aller jusqu'en Espagne. Et il se disait que s'il allait en Espagne, donc il passerait par Rome, et que les croyants de Rome l'accompagneraient après qu'il aurait satisfait en partie son désir de se trouver chez eux. Présentement, leur dit-il, je vis à Jérusalem pour le service des saints. Qu'est-ce qu'il avait à faire à Jérusalem? Il portait la collecte qui avait été faite dans la Macédoine. Car la Macédoine et la Thaïs et la Grèce ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. On se souvenait que c'était quand même de Jérusalem que leur était venue la bonne nouvelle, et alors ils voulaient faire bénéficier ces gens de Jérusalem qui passaient par l'épreuve et d'une partie de leurs biens, manifestation de leur amour et de leur reconnaissance dans le Seigneur. Ces églises, donc de Macédoine, elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont du part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. C'est très clair, ça découle de source. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. C'est beau cela. Est-ce que vous êtes convaincu qu'en retournant chez vous, vous retournerez avec une pleine bénédiction du Christ? Pourquoi est-ce que vous ne le diriez pas? Je sais qu'en retournant chez moi, j'y retournerai avec la pleine bénédiction du Christ. Dites cela dans vos cœurs. J'y retournerai avec la pleine bénédiction du Christ. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, dans le Christ. Alors, recevez cette bénédiction, c'est celle du Christ. Et alors, vous pourrez vous en aller. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit. Cet amour de l'Esprit, il est où maintenant? Versé dans nos cœurs, chapitre 5. Il a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Eh bien, je vous exhorte, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi. Oui, un combat, la vie chrétienne, c'est un combat. Mais on ne combat pas de n'importe quelle façon. On sait comment on combat et on sait quelles armes nous avons pour combattre. Mais combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Vous voyez que Paul, tout grand qu'il soit comme apôtre, il a besoin des prières et il les demande. Et en tout cas, il y a une chose qui m'a profondément réjoui et que je voudrais partager avec vous, si quelquefois vous avez pensé que je disais des choses dures, ce n'était pas des choses dures, c'était le langage d'un grand amour, mais d'un amour viril, qui ne cherche pas à plaire ou à flatter, car comme le dit Job, ma langue ne s'est pas flattée. Le Seigneur me reprendrait bien vite. Mais je vous ai dit qu'il y avait des lieux de prière dans ce camp et que j'espérais que vous les trouveriez. Et je sais que vous les avez trouvés. Et je sais que dans ce camp, on a prié sans qu'il y ait des réunions de prière officielles. Et vous avez trouvé les lieux providentiels où des âmes se réunissaient pour prier. Et vous vous êtes joints à eux, et j'en bénis le Seigneur. Et si le camp aura été béni, ce que je veux croire, c'est grâce à vos prières. Alors, continuez de prier. Afin, dit l'apôtre, que je sois délivré des incrédules de Judée. C'est drôle, ça. Qui sont les incrédules de Judée? Ce sont des juifs, ce sont des gens religieux. Les incrédules de Judée, ceux qui entravent l'apôtre, c'est pas les païens, c'est des gens religieux. C'est quand même drôle. Et ça n'a pas changé. Et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Et qu'est-ce qu'il y a eu quand même? Eh bien, les incrédules de Judée ont réussi à le faire. Emprisonnés. Mais comme Paul le dit, que toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, il n'a pas eu besoin d'envoyer une circulaire pour demander de l'argent pour payer son voyage à Rome. C'est l'État qui lui a payé. Comme prisonnier, on l'a fait voyager gratuitement. Alors, ça valait la peine d'aller en prison pour pouvoir faire le voyage à Rome gratuitement. Et être même le moyen de salut de tous ces naufragés et qui auraient péri certainement si Paul n'avait pas été là, pouvant leur dire dans cette nuit de tempête, un ange du Seigneur à qui j'appartiens. C'est beau ça. Un ange du Seigneur à qui j'appartiens m'est apparu cette nuit. Et il invite les gens à manger alors que le bateau va sombrer. Il est dans la paix. Il est dans la sérénité, même dans la tempête. Voilà ce que Dieu fait avec ceux qui se livrent à lui, qui acceptent de vivre cette mort pour que la vie de Jésus soit manifestée dans sa chair mortelle. Et il demande verset 32 que quand il arrivera à Rome, il puisse y arriver avec joie, si c'est la volonté de Dieu. Alors, quand il est arrivé à Rome, dans par un autre moyen qu'il n'avait pensé lui-même. C'est beau de voir ce qui s'est passé. Il est dit au chapitre 28 des Actes, ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours, verset 13, de là, suivant la côte, nous atteignîmes Reggio, et le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Pouzzole, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux, et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome, vinrent à notre rencontre jusqu'au Forum d'Appius et aux 3 tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage avant d'être mis en prison. Il voit les frères et il prit courage. Et Dieu l'avait dit, en sorte que j'arrive chez vous avec joie. C'était un naufragé qui arrive, mais sa joie est là. La volonté de Dieu s'est accomplie, il est à Rome. Et il désirait jouir au milieu de quelques repos. Il aura son repos, mais en prison, attaché à un soldat. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez vu la liaison qu'il y a entre cette partie pratique et la partie doctrinale? C'est vraiment une pratique qui découle d'une doctrine. Vous voulez changer de position, ou bien vous voulez tout de suite aller au lac, ou bien vous désirez que je réponde à la question de notre sœur Francine sur le chapitre 2 de la première épître à Timothée. Il semble que nos sœurs se sont mis d'accord sur la première partie, mais qu'il y aurait un verset qu'on aimerait que nous voyons encore ensemble. Est-ce que vous voulez changer de position? Je vais tout de suite souligner que dans ce chapitre 2, le Seigneur, par la bouche de l'apôtre, donne des responsabilités très grandes aux hommes. Et nos sœurs devraient y penser. Parce qu'elles voient tout de suite les restrictions qui sont données aux femmes. Mais souvenez-vous de ce qui est demandé aux hommes, et c'est pas très drôle. Verset 8. Chapitre 2 de la première à Timothée. Les responsabilités qui sont données aux hommes. Verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Voilà ce qu'il est demandé aux hommes. D'être entièrement disponibles pour pouvoir prier en tout lieu. Et d'après le verset premier, leurs prières devront être des prières pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Et nous voyons ce qui nous est demandé de réclamer du Seigneur. Que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Alors, les hommes doivent prier en tout lieu, être toujours disponibles pour un témoignage, en élevant des mains pures. Donc, ils doivent veiller dans toute leur conduite. Et pour avoir des mains pures, qu'est-ce qu'il faut avoir? Un cœur pur. Et pour avoir un cœur pur, qu'est-ce qu'il faut faire? Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité. C'est l'obéissance à la vérité qui nous donne un cœur pur. Et qu'est-ce que la vérité? C'est le Christ, c'est Jésus. Non pas Jésus de notre imagination, mais Jésus de la révélation. Jésus de la parole, tel qu'il est montré dans la parole. Et nous devons avoir ce témoignage sans colère, ni mauvaise pensée. Donc, ce qui est demandé aux hommes, c'est beaucoup. C'est de vivre vraiment leur christianisme. Jésus était doux et humble de cœur. Alors, il faut vraiment que les affections de notre cœur soient rendues captives à l'obéissance du Christ. Et maintenant, alors, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Je dis simplement, pudeur c'est assez, modestie c'est pas trop. Ne se pare ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais cela, ce que Paul dit, c'est pas une loi. Si vous voulez être une sainte femme, ne pensez pas que c'est l'extérieur qui comptera, que c'est la parure extérieure. Non, comme Pierre le dit, c'est la parure intérieure. Mais si cela plaît à votre mari, ou si cela peut vous plaire dans le Seigneur, d'avoir un collier de perles ou d'avoir un bijou qui vous a été donné et qui vous rappelle quelque chose, il n'y a pas de mal à cela. Mais si vous pensez que pour être vraiment spirituel, il faut tout se bagarrer, eh bien c'est ça qui est faux. Comprenez-vous? Mais il n'est pas dit que vous ne devez absolument pas avoir cela. Mais c'est pas cela que vous devez rechercher. Comprenez-vous? C'est pas cela que vous devez rechercher. Et puis, c'est des choses que vous devez régler avec votre mari, si vous avez un mari. Et si vous n'en avez pas, vous réglez ça avec le Seigneur, c'est encore plus facile. Mais c'est vrai, hein? Mais une femme qui se dit, ben voilà, moi je voudrais me marier, je voudrais avoir un mari. Alors, pour plaire, on se refait la façade, on s'en met sous les yeux, dessus, dessous, et puis on se met du rouge écarlate, oui. Ben là, c'est pas la colombe. C'est ça. Et on se met en chasse. C'est pas comme ça que vous arriverez. Restez dans la fente du rocher. Vous vous direz, mais personne n'y aura à m'y voir. Mais le Seigneur vous enverra quelqu'un qui a prié. Et je sais qu'il y en a qui ont prié. Seigneur, mets sur ma route la femme de ton cœur pour moi. Hein? Il y a des hommes qui ont prié ainsi dans le camp. Et alors, le Seigneur qui n'est pas sourd, et le Seigneur qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, il conduira cet homme vers ces rochers abrupts. Puis vous entendrez la voix, laisse-moi voir ton visage, ma colombe, ma biche. Parce qu'il y a des termes exquis dans la parole. Fais-moi entendre ta voix. Croyez-le, vous n'avez pas besoin de tout cet attirail extérieur des mondaines hein, pour attirer quelqu'un. C'est simplement ça, mais si vous voulez avoir un collier,
ça vous va bien, n'en faites pas un drame. Et puis si on vous dit cela, vous avez un collier. Moi, on a dit ça à ma femme l'autre jour. C'est pas à qui. Et vous savez, vous m'avez scandalisé, j'ai vu que vous aviez un collier de perles. On a osé dire ça à ma femme. Puis le collier de perles, ben, c'est moi qui le lui ai donné. Et je lui ai donné, il y a 20 ans, je vous ai dit, ben, quand même, on ne lui donnera plus aucun don. Avec nos dons, avec notre argent, il se permet d'acheter un collier de perles pour sa femme. Voilà vos jugements. Bien non, mes amis. J'avais une cousine à Lausanne qui était assez riche et j'ai pu assister son mari dans sa mort. Elle était tellement reconnaissante qu'elle a dit à sa sœur, Gaston va se marier et comme je le connais, il n'osera jamais apporter un bijou à sa femme parce qu'il est au service de Dieu. Alors moi j'ai un beau collier que mon mari m'a donné. Et je sais que je vais mourir bientôt, elle est morte justement un mois avant mon mariage. Elle a dit à sa sœur, ce collier, c'est pour Eva, mais par Gaston. Alors évidemment, c'est pas très reluisant de ma part d'apporter le collier qu'a apporté ma cousine à ma femme, mais je savais que c'était du Seigneur. Je l'ai reçu du Seigneur par ma cousine. Et je l'ai donné à ma femme. Je lui ai pas dit, tu vois, c'est un grand sacrifice. Parce que un serviteur de Dieu pourrait très bien, si vous lui donnez des dons, bien, pourrait dire, bien, je me prive de ci, je me prive de ça, et puis je mets cela pour acheter un collier à ma femme. Ça serait aussi possible. Mais j'ai pas eu besoin de faire ça. C'est pas nécessaire. Le Seigneur est tellement bon. Mais voilà, on juge, ma femme a un collier de perles. Eh oui. Lisez un peu la parole et vous verrez qu'il y a des belles parures dans la parole. Mais la question c'est, pourquoi le porte-t-elle? Parce qu'il y a toute une histoire dans cette affaire de collier. Il y a même une conversion que rappelle ce collier. Alors, Jugez. Adjugez. C'est drôle, hein, comme on est. On est vraiment constipé. Alors, les femmes, maintenant, qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Le Seigneur vous donnera le collier par-dessus. Mais vous n'aurez pas d'abord le collier, puis après des petites bonnes œuvres. Et maintenant, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai une femme qui a une profession et qui enseigne bien des générations de jeunes médecins, depuis qu'elle est médecin et qu'elle enseigne à ma vie, mais dans ce domaine spirituel, moi des fois je voudrais qu'elle soit moins silencieuse, mais elle respecte, je n'ai pas là, hein. C'est moi qui rentre dans le silence. Qu'a-t-elle dit? Comment? Que la femme écoute l'instruction en silence. Puis, c'est toi, qu'est-ce que c'est? C'est quelle version?
Jérusalem,
oui. Oui, ben. Si elle se tient tranquille, ça ne fait pas de bruit.
Mais avec cette entière soumission, c'est de nouveau la même chose que dans les Éphésiens. Femmes, soyez soumises à vos maris. Puis ce silence, c'est pas un silence total, c'est un silence qui est louange. Le silence est louange. Mais voyez dans quel esprit cela est dit. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ben, vous pouvez faire autrement, si vous le voulez. Mais vous en aurez les désagréments. Moi, je pense que le silence a une telle valeur que si on retrouvait cette dimension, la valeur du silence, et que nos sœurs en particulier découvrent cela les premières, il y aurait le réveil dans l'Église. Il y aurait vraiment un réveil dans l'Église. Quand j'ai vu encore à Jérusalem récemment, c'est des femmes américaines qui mènent le bal. Là-bas. Soi-disant, elles veulent tout convertir. Elles trouvent des petits jeunes gens qui se convertissent par leur prédication, puis elles veulent tout de suite en faire des serviteurs de Dieu. Elles les empoisonnent d'argent, et ça fait un mal incalculable à la cause chrétienne en Israël. Mais elles transgressent absolument la parole de l'apôtre. Et on en voit les dégâts. Alors, verset 13. Car Adam a été formé le premier, et Ève ensuite. Donc, c'est pas du tout parce que la femme serait inférieure. Dieu a agi selon un ordre, et c'est un Dieu d'ordre, et cet ordre hiérarchique, on le retrouve dans le chapitre 11 des Corinthiens. Oui, ben alors on y arrive. Mais je voulais le laisser dans son contexte. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Et puis, elle en a donné à son mari et donc son mari est tombé. Mais quand l'apôtre parle de la chute. Dans les Romains, qu'est-ce qu'il dit? Comme par une seule femme, le péché est entré dans le monde? Non. Comme par un seul homme. La responsabilité entière est sur Adam devant Dieu. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Alors, la mort est entrée aussi à cause du péché. Mais la femme qui a été séduite et qui a entraîné l'homme dans sa chute, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Mais ce n'est pas du salut éternel, ce n'est pas du salut de son âme qu'il est question. Mais vous savez très bien que maintenant, depuis la chute, quand la femme devient enceinte, il y a une menace sur sa vie. Et elle pourrait mourir, ça on le sait. Non seulement elle a des souffrances dans sa grossesse, mais aussi pour enfanter. Et le mari, s'il aime sa femme, je sais très bien que nous passons par des angoisses. Parce que nous nous demandons, est-ce que tu vas perdre ta femme à ce moment-là de la naissance d'un enfant? Et qu'est-ce qui peut le plus encourager la femme, bien c'est cette parole que même en devenant mère, elle peut être sauvée. C'est le salut physique, c'est pas le salut de l'âme. La femme qui est menacée au moment où elle donne la vie peut s'accrocher à cette parole qu'il y a une promesse pour elle et que même si elle devient mère, eh bien, elle sera sauvée, le Seigneur
la conservera en vie, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Ce n'est pas du salut de l'âme qu'il est question, c'est du salut du corps. Au travers de sa grossesse, au travers de l'enfantement, la femme survivra. Elle sera sauvée. Ce n'est pas de son âme qu'il est question. Oui. Ben tu vois, c'est mieux. C'est, oui, c'est ça. C'est préservé, si tu veux. Parce que le mot sauvé peut être un peu équivoque. Et il y en a beaucoup qui ont pensé, bien, voilà, pour être sauvé, il faut devenir mère. C'est pas ça. Oui. Est-ce que vous avez compris? Oui. Qu'est-ce que tu entends, Jacques? Un autre verset qui donne une promesse à la femme? Ben dans la version de Jérusalem, tu dis? Non. Non, vous voulez second réviser. Ici, j'ai Jérusalem, moi, ici, dans mon petit Nouveau Testament en rouge. Alors, c'est donc la version catholique. Et ce n'est pas Adam qui se laissa séduire, mais la femme qui séduite se rendit coupable de transgression. Néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère, à condition de persévérer avec modestie, dans la foi, la charité et la sainteté. Il y a une petite note. La vocation de la femme est d'abord de donner la vie et d'élever des enfants. Non, non, ce n'est pas spirituel. C'est le salut physique. Il y a une menace de mort. Je rendrai très grande tes souffrances et ta grossesse, etc. Il y a une menace de mort, mais elle sera sauvée. Non. Il y a, oui, ça c'est un bon verset qu'on peut citer. Très bien. Oui. Ah non, je n'irai pas jusque-là, non, attention. Hein. Mais la chose... Moi, j'ai toujours vu cela, quand même, pendant toutes ces années, que si on peut encourager la femme à s'accrocher à cette promesse, eh bien, il y a certainement une bénédiction. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une mortalité une fois. Et c'est pas toujours, on meurt pas toujours parce que on a été infidèle. Quelquefois, c'est justement parce qu'on est fidèle que le Seigneur nous reprend. Le juste périt et personne ne le prend à cœur. Et les hommes de bonté sont recueillis, puis les femmes de bonté aussi, sans que personne comprenne que le juste est recueilli de devant le mal. Oui? Non, non, non. Sauvé. Que quoi, c'est le mari, là? Bah bien sûr que ça va de soi, que c'est ensemble qu'on persévère. Mais là, puisqu'il est parlé de la femme, c'est d'abord la femme. Mais nous avons tous à persévérer, puisque notre Dieu, c'est le Dieu de la persévérance. On l'a dit ce matin. Mais vous voyez, on a toujours cherché à empoisonner l'enseignement biblique. C'est pas juste. Mais pas quand vous avez quelque chose qui vous choque, dites-vous, je comprends pas. Mais ne dites pas, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut bien. Oui. Vous avez. Oui? Oui, mais parce qu'il faut toujours rappeler ça aux gens, parce qu'on est oublieux. C'est pas quelque chose d'automatique. N'est-ce pas? Voilà, c'est classé. C'est que nous avons une assurance dans tout cela, une assurance morale. Mais comme l'assurance du salut, c'est pas une assurance, comme 2 × 2 = 4, c'est pas une assurance mathématique, l'assurance de mon salut. C'est une assurance morale. Je ne suis pas sûr d'être sauvé comme 2 × 2 = 4. Je suis sûr de mon salut dans le chemin où Jésus a marché. C'est là que le Seigneur me donne cette assurance. Mais si je marche dans une voie perverse, le Saint-Esprit ne rend pas témoignage à mon esprit que je suis l'enfant de Dieu quand je marche ainsi. Et alors, ici, parce que si c'était le salut de l'âme, alors elle serait sauvée par les œuvres de nouveau. Donc ça peut pas être du salut de l'âme, parce que c'est pas les œuvres qui le sauvent, c'est pas même ma persévérance qui me sauve. Puis alors celle qui n'aurait pas d'enfant ne serait pas sauvée. Mais il y a menace sur la femme depuis la chute. Et cette menace, elle est toujours précise dans la grossesse, dans l'enfant, et au moment de l'enfantement. Et alors, ça pourrait arrêter complètement les personnes. Dire, moi, je veux pas d'enfant parce que j'ai peur de mourir. On mourra d'une autre façon. Oui, bien sûr. Nous avons tout le temps besoin d'une exhortation, quelle que soit notre condition. Et nous devons supporter cette parole d'exhortation. Oui, il y a des diaconesses. On verra demain matin, ce B est des diaconesses, justement, de l'Assemblée de Saint-Christ. Et elles ont, les femmes, si elles le voulaient, découvriraient qu'elles ont un ministère qui est beaucoup plus encore important que les hommes. Et que si elles voulaient s'occuper de ce ministère, elles n'auraient rien à envier aux hommes. Mais l'école du dimanche, justement, ben, c'est
c'est quand même la mère essentiellement qui éduque l'enfant, alors elle a toute sa place aussi là. Et justement, on l'a dans Timothée, dans le chapitre premier qu'on a lu ce matin. Eunice et Loïs, la mère et la grand-mère, ont joué un rôle primordial dans l'éducation de l'enfant. Et toutes les mères dans Hébreu, Anne, c'est elle qui a formé Samuel. La mère de Moïse, c'est elle qui était la nourrice de son fils, et c'est quand même d'elle qu'il a reçu les premiers enseignements qui lui ont permis de rester fidèle à son peuple, même quand il a été à la cour du Pharaon et aux écoles égyptiennes. Et c'est un enseignement qu'il a reçu jusqu'à l'âge de 7 ans. On pense que c'est à 7 ans qu'on l'a donné à la fille du Pharaon. Mais jusque-là, c'est sa mère qui s'en serait occupée. Et pour Samuel, c'est quand même l'enseignement qu'il avait reçu de sa mère qui l'ont gardé alors qu'il avait de tels mauvais exemples avec les fils d'Élie. C'est le ministère public. Mais bien sûr, absolument. Il y a des exceptions qui confirment la règle. Si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. Alors, avant de faire crier les pierres, Dieu peut bien faire crier les femmes. Les messagères de la bonne nouvelle furent en très grand nombre. Où cela se trouve-t-il? Les messagères de la bonne nouvelle furent en grand nombre. Psaume 68, verset 12. Les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. Il y a toujours eu des messagères de bonne nouvelle. Et il y a toujours des femmes qui ont reçu une mission d'apporter un message. Trouvez-moi, quel est l'apôtre qui a été chargé de dire aux disciples que Jésus était ressuscité? C'est une femme. C'est Marie-Madeleine. Quelle est la femme qui a dit que Pierre était délivré, qu'il avait à finir la réunion de prière par la louange? C'est la servante, c'est Hérode. Est-ce qu'ils l'ont cru? Ils ont dit qu'il est folle. Les frères sont là. Ben oui, tu as tout à fait raison, hein. Elle avait envie de se taire après elle. Elle leur apporte une bonne nouvelle, ils ne la croient pas. Voilà une réunion de prière où on dit « Seigneur, délivre notre cher frère Pierre. Tu es puissant pour le délivrer. » Puis tout à coup, ma petite servante, elle va. Puis Pierre frappe. Et elle reconnaît que c'est sa voix. Alors, elle ouvre pas même la porte, elle est tellement pleine de joie qu'elle oublie de tirer le verrou. Et puis elle se précipite, puis elle dit au frère, mais arrêtez, il est là. Tu es folle. Hein, on s'attend à être exaucé. Hein. On a des prières qui ébranlent le plancher et le plafond. On s'attend vraiment à être exaucé. Tu es folle. Quand même assez réconfortant la parole, hein. Les apôtres.